Les pieds sur terre, Sonia Grönlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
C'est aujourd'hui, nul ne l'ignore, la journée internationale des droits des femmes. Alors avant de condamner ce qui arrive aux femmes au Nigeria, en Afghanistan, au Yémen, avant de s'indigner du sort fait aux jeunes filles enlevées, brûlées à l'acide, mutilées, forcées au mariage, considérons un instant ce qui se passe en bas de chez nous, au coin de la rue. Chaque année en moyenne en France, 219 000 femmes sont victimes de violences physiques et ou sexuelles dans leur couple. Ces chiffres sont ceux du secrétariat d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes, et il faut préciser que c'est une estimation a minima. Cependant, 19% seulement de ces femmes déposent plainte. En 2017, 86% des victimes de violences conjugales sont des femmes, soit 130 femmes tuées par leur compagnon ou leur ex-compagnon. Enfin, chaque année, 94 000 femmes sont victimes de viols ou de tentatives de viols. Dans 47% des cas, le conjoint est l'auteur des viols. Les violences faites aux femmes chez nous, ce sont aussi des violences économiques. Rappelons qu'il est interdit par la loi d'empêcher sa femme de travailler, de contrôler ses dépenses, d'exercer sur elle la moindre coercition, comme de confisquer des documents administratifs ou des documents d'identité. Si vous vous rendez sur le site stopviolencefemmes.gouv.fr, en gros sur le site secrétariat d'État en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, deux liens pourront attirer votre attention. Le premier s'appelle « Effacer les traces de votre passage ». Il explique en détail et par navigateur comment supprimer l'historique de votre navigation, dont évidemment le passage sur ce site dédié aux violences subies. Il induit, hélas, assez tristement que les femmes victimes de violences sont également surveillées, suspectées, espionnées, torturées psychologiquement. Tout comme le second lien, quittez rapidement ce site qui en dit long sur la peur dans laquelle vivent les femmes victimes de violences conjugales. Tout de suite dans Les Pieds sur Terre, une seule histoire, mais qui en contient 100, par Rémi Dibowski-Douatte, sobrement intitulé « Dans deux heures, je te défonce » et diffusé pour la première fois le 25 novembre 2016.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. Et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Morgane Soliman, j'ai 33 ans. J'habite à Nanterre depuis pas très longtemps. Je suis actuellement sans emploi et je vais vous raconter ma vie. Donc, un jour, j'étais dans l'herbe, tranquillement assis avec mon amoureux et les amis de mon amoureux. On était tous ensemble un dimanche après-midi. Quand tout d'un coup, au loin, surgit un homme qui arrive et qui s'adresse à mon copain et qui lui dit « Écoute, Franck, je voulais juste te prévenir que Morgane un jour sera ma femme. On aura des enfants ensemble. » Il dit « Mais t'énerve pas, c'était juste pour te prévenir que tu saches. » Il dit « Sur ce, je vous laisse. Bon après-midi. » Morgane, on s'appelle un de ces jours. Voilà les premiers mots qu'il m'a dit et qui m'ont charmé. Donc ça va être ma première rencontre. Je vais quitter Franck quelques mois plus tard, mais ça n'avait rien à voir avec Yacine. Voilà, je vais quitter Franck et je vais revoir Yacine, qui lui, bien sûr, quand il sait que j'ai quitté Franck, va venir tous les soirs en bas de chez moi. Il fait tous les soirs 100 km. Il habite à 100 km de chez moi pour venir juste en bas de chez moi pour voir si je suis là, ne serait-ce que pour me dire un mot. Et forcément, tout ça, ça plaît. Quand tout d'un coup, on voit qu'un homme s'intéresse à vous comme ça, et ça va être le coup de foudre. Je suis à moitié égyptienne et lui aussi est à moitié égyptien. Du coup, on va se trouver beaucoup de points communs. Tous les deux, on a la chance d'avoir une famille musulmane, on va dire, et une famille chrétienne. Donc au niveau de la culture, c'est génial, on s'entend vraiment bien. Donc je vais tout quitter pour aller m'installer avec cet homme. Les premiers temps vont être presque idylliques, je dirais. C'est quelqu'un qui est très attentionné, c'est quelqu'un plein d'humour. Il m'a vraiment séduit. Mais c'est quelqu'un quand même d'assez jaloux et... Déjà, sans m'en rendre compte, il a commencé à faire le vide autour de moi, à me critiquer mes copines, comme s'ils voulaient me prouver qu'ils étaient nuisibles pour moi, en fait. Et finalement, tellement amoureuse, quelque part, je vais le croire un peu. Donc, il commence déjà à faire le vide autour de moi. Je me suis installée à la campagne avec lui. Et forcément, j'ai plus ma vie de parisienne, où ça commence à être un peu plus compliqué. Il commence déjà à imposer sa loi. Par exemple, je vais travailler en boulangerie à ce moment-là. Il n'y a pas beaucoup de bus pour ma pause du midi. Le midi, j'ai une pause de 4 heures. Et c'est là qu'il va commencer à estimer que si j'ai été gentille ou pas, qu'il va venir me chercher ou pas. Mais il va le présenter d'une telle manière que c'est moi qui vais me sentir coupable, à me dire « Ah, c'est vrai que j'ai pas été gentille avec lui hier soir. Bon, bah, tant pis, s'il vient pas me chercher, c'est de ma faute, quoi. » Petit à petit, il va arriver à me faire croire des choses, que je suis pas gentille, que je sais pas, je fais mal à manger, je fais mal le ménage. Il va essayer de me faire croire beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, au bout d'un an et demi que nous sommes ensemble, je vais être enceinte. Je sais pas quoi faire au début. Parce qu'au fond de moi, je sens que cet homme-là, c'est une erreur de faire un enfant avec lui. Je le sais, donc je décide d'aller avorter. Mais quand je vais avorter, en fait, à l'hôpital, je sais pas pourquoi, hasard des choses, ils me font écouter le cœur du bébé. La dame s'est trompée, n'a pas vu que je venais pour un avortement, elle me fait écouter le cœur du bébé, me montre le petit point blanc que c'est mon bébé et tout, et du coup, je vais plus avoir la force d'avorter. Donc j'ai décidé de garder cet enfant. Et derrière mon dos, le grand frère de Yacine va l'appeler pour lui dire « Mais t'es sûre que c'est ton fils au moins ?» Et de là, Yacine, pendant des mois et des mois, va rien me dire. Mais ça lui met une colère immense où il s'imagine que son fils n'est pas son fils, en fait. Et du coup, la moindre petite chose, une télécommande mal rangée, un steak mal cuit, enfin, la moindre petite chose va le faire partir en vrille, quoi. Et le premier coup va tomber. Alors le premier coup tombe, on est partagé entre s'enfuir, entre est-ce que c'est nous qui avons fait quelque chose de mal, est-ce que c'est lui qui est fou. Puis finalement ça va tellement vite qu'on n'a plus le temps de penser. Et puis en même temps je suis enceinte, j'ai qu'une envie, c'est de fonder une famille. Donc je vais finir par croire aussi et me persuader que de toute façon que quand le bébé sera là, ça ira et qu'il sera plus fâché. Donc finalement, quand le premier coup tombe, on nous dit souvent « oui, à la première claque, faut partir », mais à la première claque, c'est déjà trop tard, en fait. C'est déjà installé, tout son stratagème est déjà installé. Et finalement, la grossesse va être assez compliquée, parce que il va me taper très souvent, mon enfant va s'arrêter de grandir dans mon ventre pendant 2-3 mois à cause du stress. Les médecins me posent souvent la question si je suis battue ou quoi, mais... comme je leur dis jamais que je suis battue, j'ai trop peur en fait qu'on m'enlève mon enfant à la naissance. Ou du coup, je ne dis jamais rien. Et puis en plus, la peur que lui, il me dit si tu dis quelque chose ou quoi au médecin, mais alors là, t'es morte. Et quand j'accouche, mon fils est blond aux yeux bleus. Et Yacine, ça va le perturber complètement en fait. Lui, d'origine égyptienne, comme moi, on n'est pas vraiment blond aux yeux bleus. Enfin, dans ma famille, ils le sont tous. Du côté français, ils le sont tous. Et du coup, en fait, ça, il va très mal le prendre, que son fils ait les yeux bleus, et que... parce que mon ex-ami, Franck, est blond aux yeux bleus. Donc, forcément, ça éveille une espèce de jalousie où les 10 jours de congé paternité qu'il va prendre à la sortie de la maternité vont être pour moi un cauchemar. Ça va être des coups et des coups pendant ces 10 jours où il me demande pourquoi l'enfant est blond aux yeux bleus, quoi. Et ça va être terrible. Jusqu'à temps qu'il reprenne le travail, qu'il se calme un petit peu, et puis on tombe dans cette routine à s'occuper de l'enfant, se faire taper le soir, et voilà. Et puis, il va mettre en place ce fameux compte à rebours. C'est par exemple, le matin, il estime que j'ai mal fait ses tartines, c'est-à-dire qu'elles sont mal beurrées, qu'elles sont pas de la grandeur qu'il faut. Parce que, entre-temps, je suis devenue son esclave, en fait. C'est plus comme un couple, une femme, elle veut faire plaisir à son mari, non. Là, je suis devenue son esclave, où je suis obligée de faire faire tout, en fait, tout simplement. Et dès le matin, donc revenir sur le compte à rebours, pour vous donner un exemple, le matin, tout simplement, je vais mal lui préparer ses tartines, ou les télécommandes vont être mal rangées, tout simplement, vont être mis de travers au lieu d'être bien droits. De là, il appelle ce qu'on appelle le compte à rebours, c'est qu'il va me dire, on couche tous les jours notre fils à 14h, admettons, il est 10h du matin, il va me dire, c'est quoi, dans 4h, je te défonce. Et ça va faire sa matinée jusqu'à 14h, où il va me dire, dans 3h30, je te défonce. Oh là, plus que 3h, c'est chaud pour toi. Dans 1h, dans 30 minutes, plus que 10 minutes, c'est chaud pour toi. Donc, 2h moins 10, je monte, je couche mon fils et j'essaye tant bien, autant que je peux, de garder un sourire pour le petit, qu'il ne sente pas que je sois stressée, parce que c'est terrible. Chez nous, tout est militaire. Donc, 2h pile, il est au lit. Et 2h pile, là, on habite un duplex, je sais que je dois descendre ces fameuses marches pour me présenter à lui. Et là, c'est horrible. Je descends mes escaliers et vraiment, je savoure marche à marche, où lui, il m'attend dans le salon. Entre-temps, il a fermé la porte à clé, que les clés sont dans sa poche, il a fermé les rideaux, et souvent, il met soit de la musique, soit la télé assez fort, pour être sûr de... Il prépare, en fait, sa scène. De là, en fait, je descends les escaliers jusqu'à la dernière marche. Et là, il va me dire « Viens devant moi ». Donc, je me présente à lui, hein, je me mets devant lui. Et là, il fait ce qu'on appelle des feintes. Il va faire semblant de me taper, de me mettre des coups. Et ce qu'il veut, c'est que je bouge pas. Donc, au fur et à mesure des séances, il veut m'apprendre à résister. Et en fait, forcément, au bout de 3-4 feintes qu'il va me faire de me mettre une claque, il y a un moment où je vais cligner des yeux, où je vais avoir peur. Et de là, ça va être, il va me mettre la première claque en me disant « Je t'avais dit de résister ». Et lui-même, dans son délire, va me dire « Tu vas voir, je vais te rendre plus forte ». Et donc, du coup, il va mettre sa première claque, la deuxième. Après, ça va être en général des coups de poing, jusqu'à temps que je tombe par terre, des coups de pied. Et ce qu'il stoppe à chaque fois, c'est le sang. En fait, ça va être ma chance, c'est que cet homme-là, il ne supporte pas la vue du sang. Donc, il suffit que des fois, je saigne un peu, ou même moi, en fait, j'en suis au point de mordre l'intérieur de la bouche ou quoi, pour qu'il y ait du sang qui sorte, pour l'arrêter. Dès que le sang sort, ça l'arrête, mais comme un automate, en fait. Il s'arrête tout de suite. De là, il fait toujours la même chose. Il me dit, écoute, je vais me laver, range toute la maison, et quand je redescends, prépare tes excuses, et je veux un sourire. Donc, à chaque fois, il va se laver, comme un rituel, en fait. Comme s'il avait besoin de se laver de ce qu'il avait fait. Moi, entre-temps, on est partagé entre le fait d'halluciner, de se dire « Mais c'est quoi cette vie de fou ?» Parce que j'ai malgré tout cette lucidité, une toute petite part de lucidité qui me dit mais n'importe quoi, mais c'est un grand malade et je vais juste mourir. » Et puis de l'autre côté, la peur. La peur et qu'est-ce qu'il va faire. Et c'est ça qui est terrible. On est partagé, on ne sait pas quoi faire en fait. Et le soir, à la nuit, c'est pire parce que ça peut durer toute la nuit. Voilà, c'est déjà arrivé qu'il me tape tellement fort que j'en tombe dans les pommes. Et le lendemain matin, en fait, je me réveille. Et lui, c'est lui qui est là à me soigner en se disant « Putain, je l'ai tué ou pas ?» Et quand je me réveille, il me dit « Putain, je croyais que je t'avais tué. Tu te rends compte ce que je suis obligée de faire à cause de toi et tout ?» Ou en plus, il me dit « Putain, mais si tu serais morte, j'aurais été obligée de te jeter dans la Seine, on habite près de la Seine. » Il me dit « Et puis de faire croire à tout le monde que tu t'étais suicidée et tout. » Donc c'est terrible en plus de se dire « Putain, je vais mourir, il va faire croire à tout le monde que je me suis suicidée en plus. » Donc voilà en fait, et la vie reprend presque normalement. Parce que du coup, moi j'ai qu'une envie, c'est de souffler. Et du coup, c'est très étrange, mais la vie reprend normalement, à faire à manger le soir, à regarder un film, et puis voilà.
Comment il s'appelle ce chat ?
Éclair. T'es beau, Éclair. Oh là là, t'es trop beau.
Il fait du bien, ce chat ?
Oui. Oui, c'est... Alors, ce chat, on l'a pris il y a un an, mais finalement, ça a changé notre vie. Mon fils et moi, ça a apporté vraiment de l'amour, en fait, dans la maison. Et puis, je pense que pour mon fils, c'était vraiment que du bonheur d'avoir son chat, son bébé qui peut bisouiller comme il veut. Oui, c'est une petite présence qui rassure aussi. Qui rassure parce que ça reste un animal et que s'il entend du bruit, tout de suite, il va aller derrière la porte. Et ça va être des choses qui vont me rassurer de savoir s'il y a vraiment quelqu'un ou pas. Ou... voilà. Transculture, les pieds sur terre. Et ce qui va me sauver, en fait, bah, c'est les réseaux sociaux où un jour, un ami que j'ai pas vu depuis plus de 15 ans presque, mon amoureux du collège, me dit qu'il est en France, exceptionnellement, parce qu'il habite plus en France, qu'il y est pour une semaine et puis qu'après, il s'en va pour faire l'armée en Israël. Et là, je me dis qu'on va faire l'armée en Israël, on n'est pas sûr de rentrer. Donc, je me dis, si je veux le voir, c'est maintenant ou jamais. Et là, en fait, je sais pas où j'ai trouvé cette force, parce que finalement, je suis anéantie, je parle plus, je suis tous les jours en jogging, je m'épile plus. Et là, tout d'un coup, je me dis, ouais, il faut que j'aille le voir, je sens que... Donc, je vais monter tout un stratagème, parce que je ne peux pas sortir comme ça de la maison, où je vais dire que j'ai un rendez-vous pour le Pôle emploi, donc je vais pouvoir, comme ça, me libérer. Et je vais revoir cet homme, et cet homme va m'ouvrir les yeux, en fait. Il va m'écouter, et il va, en fait, tout simplement me redonner confiance en moi. Je me réveille. Et je vais prendre, effectivement, une vraie claque. Parce que, voilà, là, je commence à prendre conscience, même si ça va être long, que c'est pas normal et qu'il faut que je m'en sorte. Et que, voilà, c'est lui qui est malade et que je peux rien faire pour lui. Là, je commence à le comprendre vraiment. Donc, de là, je vais réussir à porter plainte. Mais en fait, quand je vais porter plainte, le monsieur qui me reçoit me dit qu'éventuellement, il sera convoqué d'ici 3 semaines. Il me dit ça, je rentre chez moi et 2 jours après, je me dis non, c'est pas possible. Il va être convoqué, je sais pas quand. Donc, je retourne au commissariat pour retirer ma plainte. Mais là, le policier, devant la gravité des faits, n'a pas le choix, retire la plainte vu que je le veux. Mais me dit qu'il va pas me laisser comme ça et me fait rencontrer en fait, l'association du côté des femmes sur Cergy-Saint-Christophe, et là, ça va être le début de quelque chose, c'est-à-dire que je vais aller dans cette association en cachette, toujours, où je trouve des subterfuges, en me disant que c'est toujours le Pôle emploi, ou des rendez-vous à la CAF, où je trouve toujours quelque chose. Et grâce à cette association, je vais faire des groupes de parole, rencontrer d'autres femmes qui s'en sont sorties, voir un psychologue. C'est-à-dire, je rencontre cette association au mois de novembre, et enfin au mois de mars, donc il m'a fallu quand même beaucoup de temps dans ma tête, beaucoup de séances de psy pour comprendre que je ne pouvais rien faire pour cet homme-là et que j'étais juste en danger, en fait. Et au bout de 6 mois que je connais cette association, il va s'en prendre au petit un jour pour une futilité, en fait. Il va lui mettre une fessée, mais une fessée disproportionnée, sachant que le petit a à peine 3 ans. Enfin, c'était vraiment disproportionné. Et là, déjà que dans ma tête, j'avais fait un sacré travail grâce à mon ami, grâce à l'association. Mais le fait qu'il touche mon fils, dans ma tête, je me dis, toi, c'est la première et la dernière fois que tu le touches. On était un jeudi et je me suis dit, vu qu'on arrive au week-end, je ne peux pas m'enfuir comme ça. J'attendrai lundi et je partirai. Et en fait, pendant ce week-end-là, qui va être assez monstrueux, le dimanche matin, il commence à me taper. Et il me dit que l'après-midi... ça va pas être terrible. Alors, vu la matinée, je me dis, il va me tuer, en fait. Entre-temps, le dimanche midi, on va faire des courses. Et pendant les courses, je vais en profiter pour appeler la gendarmerie, leur expliquer qu'il va me tuer. Et donc, ils me disent que quand je rentrerai des courses, ils seront là. Effectivement, quand on est rentré des courses, ils étaient là. Il a pu se faire arrêter. C'était assez compliqué, quand même, pour qu'il se fasse arrêter. Mais en même temps, j'avais tellement le bleu et tout du matin... Voilà, donc même lui, quand il s'est fait interpeller, il a été tasé à 2 reprises parce qu'ils n'ont pas réussi à l'attraper comme ça. Et ensuite, comparution immédiate. Là, pour le coup, ça va être dans cette affaire la seule fois où la justice va m'entendre, parce que comparution immédiate, et le procureur va prendre en compte les 4 ans d'horreur et tout, il va être condamné à 18 mois, dont 12 mois ferme, ce qui est en matière de violence conjugale assez rare. Donc là, je vais être contente, mais en fait, il va sortir au bout de 6 mois pour bonne conduite. Ça, c'est terrible. Ces gens-là sont des manipulateurs. à tel point en fait que quand il va être en prison, au bout d'une semaine, il y a un maton qui va m'appeler en numéro privé et qui va me dire « Madame, je vous en supplie, il est gentil, il va vraiment pas bien, appelez-le, il fait de la peine. » Donc c'est-à-dire qu'il est assez fort pour convaincre un maton d'appeler la victime. C'est quand même un truc de fou. Heureusement, on a retrouvé, moi j'ai porté plainte tout de suite, le maton a été retrouvé et a été viré parce que tout simplement cet homme-là n'était pas capable d'assurer son rôle de maton. Mais c'est pour dire à quel point ces gens-là sont manipulateurs. Il avait réussi à faire craquer un maton. Il va sortir pour bonne conduite dès le mois de septembre, avec un diplôme. Il va avoir un bracelet électronique pendant 2 mois. Lui et moi, c'est fini entre nous, quoi. Moi, je veux plus du tout le reprendre. Lui, bien sûr, aimerait bien revenir, mais pour moi, c'est fini. Donc, quand il va sortir de prison, ça va être un harcèlement continu. C'est-à-dire que des centaines d'appels par jour. C'est-à-dire, le soir, quand j'éteins ma lumière, je reçois un petit texto. « Ah, tu te couches tôt ce soir ?» Donc, ça va être des centaines d'appels de sa sortie de prison. Donc, nous sommes en septembre 2012. Jusqu'en juin 2013, ça va être des harcèlements téléphoniques, des harcèlements où je vais le retrouver chez moi. Une fois, je rentre chez moi et il est déjà installé dans le fauteuil, en train de boire un verre, comme dans les films un peu. Voilà, pareil, une deuxième fois, pareil, il s'est installé aux toilettes. Et je suis toujours suivie par cette association du côté des femmes. Et elles sentent le danger arriver, elles me disent qu'il va me tuer, tout simplement. Donc arrivé en juin 2013, je décide de m'enfuir avec mon fils. Même ma propre mère ne sait pas où je vais. C'est le deal, il faut laisser son portable, fermer ses comptes Facebook, Twitter, etc. Et personne ne doit savoir où on part. Et ça, c'est terrible de tout quitter comme ça, où vous ne savez même pas où vous partez avec votre enfant, où je suis partie en foyer, donc foyer pour femmes battues, qui heureusement sont très bien, heureusement que ces associations existent, parce que sans ces associations, il n'y aurait rien. Donc ces associations m'ont aidée, donc je vais partir en juin 2013. En septembre 2013, il va me retrouver, parce qu'en fait, il a appelé toutes les académies scolaires de France, jusqu'à temps de tomber dans le 42, et on va lui dire « Bah oui, monsieur, bien sûr qu'il est scolarisé ici ». Alors je vous dis ça parce qu'il faut savoir que je suis dans un programme de justice qui s'appelle « Femmes en très grand danger ». Ce programme est censé me protéger au niveau des impôts, au niveau de tout, que personne ne doit avoir mon adresse. Là, il y a eu un quick. À l'école, ils ont donné, enfin, à l'académie, ils ont donné l'adresse. Donc c'est terrible, en fait, cette mauvaise coopération entre les services. Et du coup, il va me retrouver, en fait. Donc, de fil en aiguille, j'ai enfin réussi à rendre mon histoire publique. Et forcément, c'est venu aux oreilles de Yacine. Et là, ça a été terrible. Ça a été des menaces sur menaces. Où pendant 1 mois et demi, la police m'a interdit de rentrer chez moi. Et après, au bout d'un mois et demi, qui va être calmé, parce qu'au bout d'un moment, il se calme, forcément, les choses vont revenir dans l'ordre. Je vais être convoquée une fois chez la juge pour toutes les plaintes. Et depuis, plus rien. Plus de nouvelles, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an. Donc c'est terrible parce que sur les violences conjugales, les plaintes mettent plus d'un an à être traitées, si elles sont traitées, même quand il y a de la récidive. Alors aujourd'hui, j'en suis là. J'ai trouvé un appartement à Nanterre où j'ai pu me réinstaller avec mon fils, parce qu'avant... On était en Normandie, c'était très bien la Normandie, mais trop loin, c'était pas notre environnement, trop loin. Donc enfin aujourd'hui, je me suis réinstallée, je cherche du travail. Mais le problème en fait, c'est que Yacine n'a plus d'interdiction de m'approcher. Et lui, il l'a bien compris ça, et du coup les choses recommencent tout simplement parce que la justice n'a pas voulu m'écouter, la justice n'a pas voulu mettre plus d'interdictions. Et du coup, lui, il écoute la justice. La justice lui a dit qu'il avait le droit de me parler. Et il revient, parce que pour lui, je suis comme une obsession pour lui. Il supporte pas que je puisse refaire ma vie, alors que lui, pour lui, sa vie est gâchée. Donc il part du principe que la mienne aussi sera gâchée. Et puis pour moi, c'est toujours compliqué, parce que oui, j'ai eu quelqu'un dans ma vie que j'aimais beaucoup. Et finalement, Yacine, quand il l'a appris, est devenu fou. Il a tout fait pour mettre fin à cette relation, en harcelant la personne et tout. Et forcément, la personne craque et m'a lâché, quoi. Elle n'a pas envie de... Elle avait beau m'aimer, mais pas envie de se prendre la tête avec un espèce de psychopathe qui vous appelle tous les jours, qui peut débarquer chez vous. Et, c'est lui, il m'a volé ma vie, quoi. C'est vraiment ça. J'ai peur de trouver un travail et qu'il débarque dans le travail. J'ai peur d'avoir un petit copain parce que j'ai peur qu'il vienne l'embêter. Ça reste... Alors oui, je reprends le dessus. Ma vie n'a rien à voir avec avant. Et vraiment, pour ça, je suis très contente. Mais c'est pas encore ça. C'est pas encore gagné. Et je pense qu'on fait pas... On fait beaucoup de choses, mais on fait pas assez de choses encore pour les femmes battues. Et pour les hommes aussi qui sont violents. Parce que on peut pas aider les femmes battues sans aider... Pour moi, c'est des hommes qui sont malades. Ils méritent même pas la prison. Il faut vraiment les soigner. Ils sont malades. Je pense que la prison n'a pas vraiment d'effet sur eux. Je pense qu'il faut s'en occuper, les soigner. Et une fois que vraiment on sera occupé de ces hommes, là déjà on aura fait une grosse partie.
Dans deux heures, je te défonce, un reportage de Rémi Douat réalisé par Anne Kobila qui est diffusé pour la première fois le 25 novembre 2016. Sachez que depuis l'enregistrement de cette émission, Morgane Seliman multiplie les interventions publiques autour du thème des violences conjugales. Et comme vous ne l'ignorez pas, Jusqu'à la garde, le film qui en traite, vient également de remporter de nombreuses récompenses. Merci à elle, à Morgane Seliman et à Valérie Taillefer. C'est François Connac qui s'est occupé de cette rediffusion. C'est Jeanne Delecroix, l'attachée de production de Pieds sur Terre. Et c'est Nino Lima, notre stagiaire.